L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Et aujourd'hui, enfin, sans Claire, puisque Claire est en vacances, et oui, c'est les vacances de Noël, ça commence forcément, mais ça ne nous empêchera pas en tout cas d'assurer cette émission. Et on parle aujourd'hui d'un nouveau dispositif, un nouveau projet proposé par le 6x4 et les maisons de quartier de Laval qui vous proposent de partager des coups de cœur musicaux avec vos voisins, votre famille ou vos proches. En tout cas, une interview autour de cette semaine, en tout cas, consacrée aux associations en Mayenne. Quelle structure, quel réseau, quel dispositif? On va en parler avec des Zooms plus particuliers. Et ce lundi, on va parler des institutions publiques. Quel est leur rôle et comment peuvent-elles accompagner ces associations? Et puis en fin d'émission, on commence un nouveau feuilleton chez Réauté Chocolat. Et on va parler déjà de début de l'entreprise il y a plus de 60 ans. Mais tout de suite, un point sur l'actualité dans le département. Quelques jours avant Noël, l'épidémie de Covid-19 se stabilise. Les chiffres ont connu une évolution défavorable selon l'ARS, mais une légère baisse, hein, on parle de quelques petits pourcentages. Le taux d'incidence est remonté à 123 pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité à 7,7%. Quelques conseils donnés pour les fêtes. Faites attention aux personnes fragiles, à vos grands-parents par exemple, et puis au fait que tout le monde ne doit pas forcément manipuler les cadeaux ou les bouteilles de vin, à titre d'exemple. Valérie Ayer salue une victoire collective. L'eurodéputée mayonnaise a participé aux négociations sur les questions budgétaires de l'Union européenne. Un budget voté à plus de 1 074 milliards d'euros, avec notamment 30% dédié à la transition écologique dès 2021, 5,1 milliards d'euros dédiés à la santé et la politique agricole commune maintenue. Les week-ends de repos, eux aussi, maintenus pour les travailleurs sociaux. Une décision prise par le conseil départemental après la grève des assistants familiaux qui redoutaient la suppression définitive de ces week-ends de repos. La réforme devait entrer en vigueur en janvier prochain. Les assistants familiaux accueillent donc tous les jours des enfants en difficulté. Ils tenaient à ces week-ends de répit pour pouvoir retrouver leurs proches et passer du temps en famille. On peut désormais circuler entre Château-Gontier et Saint-Sulpice. Dans le cadre des travaux du contournement nord de Château-Gontier, la départementale 112 est désormais rouverte à la circulation. Les gendarmes de la Mayenne mettent en garde contre les cambriolages. Depuis le début du confinement, le nombre de cambriolages avec effraction aurait diminué. En revanche, depuis le mois de novembre, un nouveau mode opératoire a fait son apparition. Les voleurs tenteraient tout simplement d'entrer dans les domiciles en tournant la poignée de la porte. D'après la police nationale, au moins une intrusion de ce type est recensée par semaine à la vallée dans ses environs. Les policiers appellent donc à la prudence. Et puis du sport, en ce lundi, la judokate Vanessa Mbala sacrée pour la 4e fois championne d'Afrique. Licenciée du club de Château-Gontier-sur-Mayenne, la judokate camerounaise Vanessa Mbala a donc été sacrée championne d'Afrique dans sa catégorie, les plus de 78 kilos. C'est la 4e fois qu'elle remporte ce titre. Elle se qualifie ainsi pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Dernière victoire de l'année pour les Tangos. Les footballeurs du Stade Lavallois se sont imposés 3-1 face à Bastia Borgo ce vendredi. Un succès qui leur permet de remonter à la 5e place du classement de national, à 7 petits points du leader. Et puis on prend la route du Vendée Globe où Maxime Sorel a pris lui aussi une petite place au classement. Il est désormais 10e sur son bateau Vienne-Bi Mayenne, alors que Louis Burton, juste derrière lui, essaie de réparer son mât au large de la Tasmanie. Et si on vous donnait 3 musiques choisies spécialement pour vous? C'est le principe du projet Nouveaux Voisins, lancé à Laval par la salle de concert le 6x4, accompagné par les maisons de quartier de la ville. Des recommandations musicales sur un petit papier destiné à son voisin, à ses proches, pour créer ou recréer du lien. Le projet est né entre autres dans la tête d'Olympe Lenain. Elle est chargée d'action culturelle au 6x4 à Laval.
À l'origine, il était lié à un spectacle qu'on devait accueillir au mois de décembre, qui est un ciné-concert qui a été créé par l'artiste Merlot. Lui, son idée, c'était, donc il a fait un petit temps de résidence dans un lieu d'accueil d'urgence, juste à côté de chez lui. Et là, il a rencontré des gens, finalement, qui vivaient à côté de chez lui, à qui il n'avait jamais ni adressé la parole, ni même pensé vraiment qu'ils pouvaient vivre là. Donc lui, il a été surpris, et nous, dans cette idée, on s'est un peu dit, bah, c'est vrai qu'on peut vivre pendant longtemps à côté des gens, sans vraiment les connaître, sans vraiment savoir qui ils sont, d'où ils viennent, enfin voilà. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir jouer ce jeu-là, de jouer de nouveau voisin, pouvoir partager trois morceaux, et uniquement trois, avec voilà, son voisin, ou plus loin, ça peut être son boulanger, son facteur, son infirmière à domicile, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir choisir trois morceaux pour cette personne, par écrit, on lui fait un petit mot, et puis on lui explique un peu pourquoi on a choisi ces morceaux, pour lui, mais pour quelle raison. Et puis, voilà, on le met dans la boîte aux lettres ou on lui donne en personne. L'idée, c'est de pouvoir partager quelque chose un peu de concret et que, voilà, qui est à destination d'une personne. C'est vraiment choisi et précis. Parce qu'il parle de quelque chose dont on aurait pu parler avec notre voisin ou notre proche, et, ou juste parce que c'est un morceau qui nous fait danser et en ce moment, on a besoin de danser. Internet, c'est très facile, mais en fait, c'est pas très facile pour tout le monde. C'est pas toujours accessible, c'est pas non plus quelque chose d'évident à maîtriser comme outil. Le papier, c'est peut-être plus facile. Alors, l'écrit, c'est pas forcément plus facile. Mais en tout cas, l'idée de ce papier qu'on peut reproduire à la main si on en a envie, ou même d'en faire un tout petit mot, une carte postale, enfin on fait un peu ce qu'on veut. L'idée, c'était de pouvoir continuer de créer du lien, parce que nos métiers, on est un petit peu à l'arrêt. Du coup, que ce soit nous pour les concerts, où on n'accueille plus les gens, ou en tout cas, plus comme on pouvait l'imaginer, où on le faisait avant. Et puis les maisons de quartier aussi, ils perdent forcément, en étant fermés, ou en tout cas partiellement ouverts, le lien aux habitants, aux gens qui avaient peut-être déjà mis du temps à venir et qui finalement là viennent plus du tout et il va falloir recommencer encore. Donc l'idée c'était de pouvoir garder un peu ce lien. C'était aussi l'idée de savoir des fois ce que pouvaient écouter nos parents, de casser un peu les clichés. Et puis les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, enfin, l'idée c'est que ce soit hyper ouvert, donc il n'y a pas de limite.
Alors n'hésitez pas à aller chercher des petits cartons dans les maisons de quartier lavalloises ou tout simplement d'écrire sur une feuille de papier votre mini playlist de trois morceaux et pourquoi vous les avez choisis, bien sûr, c'est très important pour vos voisins, donc votre famille ou qui vous voulez d'ailleurs. Une semaine spéciale association, vous l'avez compris dans l'interview, interview à venir dans 3 minutes, juste le temps d'écouter The Strokes avec leur titre All The Time. Sur l'autre radio avec All The Time, évidemment. Vous êtes toujours dans l'agité du local et on va commencer cette semaine d'interviews autour des associations. Des associations donc avec pas mal de choses à dire évidemment, mais on va s'intéresser ce lundi au rôle des institutions publiques. Bonjour Anthony.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. En effet, cette semaine, du coup, une thématique qui me tient à cœur, Marie, comme tu le sais,
les
associations. Et donc, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans l'énumération de l'ensemble de la liste des associations. Hein. Il y en a à peu près 7000, donc ça peut être sacrément long. Non, ce que je vous propose cette semaine, c'est de découvrir des acteurs qui, lorsque l'on crée ou fait vivre une association, croiseront un moment ou un autre votre route, que ce soit pour du conseil, des renseignements, des démarches administratives ou des démarches financières, ou pour un accompagnement sur des difficultés rencontrées. Ben voilà, je vais vous proposer des rapides portraits des acteurs de l'accompagnement de la vie associative en Mayenne.
Pour commencer donc cette semaine, les premières portes à franchir, les premiers interlocuteurs lorsque l'on crée une association, sont souvent celles des préfectures, représentant l'État dans les départements, et celles aussi des collectivités territoriales, alors premiers partenaires pour pouvoir s'établir. Je reçois donc aujourd'hui Julien Ouvrard, conseiller d'éducation pour la vie associative pour la préfecture de la Mayenne. Bonjour Julien.
Bonjour Anthony.
Ainsi que Roland Bouvet, responsable du service partenariat associatif et directeur de la Maison des associations de la ville de Laval. Bonjour.
Bonjour.
Première question, Julien Ouvrard. La première étape de la création d'une association de loi 1901 est l'inscription auprès de la préfecture et le dépôt des statuts, sièges et objets sociaux, noms, etc. Est-ce que c'est directement auprès de vous que je dois le faire ?
Alors, c'est pas directement moi qui vais m'en occuper. Moi, je peux être là pour conseiller, accompagner. Je vais travailler aussi avec des associations qui vont être labellisées, reconnues par l'État via un label et puis soutenues financièrement pour pouvoir accompagner un petit peu pas à pas les bénévoles qu'ils souhaitent dans ces démarches. Donc, c'est notamment le label des centres de ressources et d'information des bénévoles. Je pense que vous allez en parler sur une émission à venir. Mais par contre, je suis en lien du coup avec un service spécifique de l'État qui s'appelle le Greffe des associations. Et là, ce sont mes collègues qui sont en charge de l'enregistrement de toutes les nouvelles associations qui se créent en Mayenne et qui sont aussi là pour enregistrer quand on a des nouvelles élections, des changements de présidence ou d'administrateur. Généralement, les associations déclarent en fait ces changements-là à l'État de façon à mettre à jour ces informations. Et donc, ce sont mes collègues du Greffe des associations qui est un service qui est situé à la sous-préfecture de Château-Gontier qui effectue ce travail.
Alors, conseiller pour la vie associative, quelle est donc votre mission ou quel est votre rôle au sein de la préfecture ?
Ma mission, elle est de soutenir le développement des associations dans le département de la Mayenne. Donc, ce soutien au développement, il présente plusieurs formes. Donc, il y a d'abord un petit peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on gère un certain nombre de dispositifs de financement via des subventions, etc. Donc ça c'est un premier aspect de ce soutien aux associations. Un deuxième aspect, donc là qui est plus propre au service de l'État, c'est qu'on n'a pas de guichet unique pour les associations. Donc une partie de mon rôle au sein du service, c'est aussi de faire le lien avec d'autres interlocuteurs de l'État qui travaillent avec des associations, qui ont des associations comme partenaires. Donc ça peut être je travaille assez régulièrement avec mes collègues qui sont plutôt sur tout ce qui est lutte contre la pauvreté, aide, des services spécifiques comme ça. Et puis après des services comme la directe, etc., plutôt sur le soutien à l'emploi associatif. Et je dirais que le dernier volet de ma mission, c'est un volet de soutien et de conseil. C'est-à-dire qu'on est on est assez souvent interrogé par des responsables associatifs sur tel ou tel aspect du fonctionnement de leur association. Là, notamment avec cette année 2020 et les différentes limites qui a pu y avoir à l'activité associative dans le cadre des deux confinements. Donc à la fois un soutien financier, une structuration un petit peu des réponses de l'État auprès des partenaires associatifs, et puis du conseil et de l'accompagnement un petit peu au cas par cas suivant les demandes et les besoins des associations.
Est-ce qu'on a quelques chiffres sur ce que ça peut représenter que le monde associatif en Mayenne? Est-ce qu'il y a combien d'associations? Est-ce que déjà, c'est facile de savoir un petit peu combien d'associations existent?
Alors, c'est une question à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est facile? Donc, une association, ça peut être aussi une association de fait. Donc, on peut avoir des associations qui sont déclarées auprès de l'État, puis après, des associations qui sont pas formalisées, qui sont pas... Donc, sur les associations qui sont formalisées, oui, on a des chiffres assez précis. Là, on estime entre 7500 et 10 000 le nombre d'associations actives, donc qui ont vraiment une existence et puis une action actuelle dans le département de la Mayenne. Ce qui fait que le département est au niveau des Pays de la Loire dans les deux ou trois plus dynamiques de la région en termes de nombre d'associations par habitant. Sur le département de la Mayenne, on est donc sur des associations qui sont nombreuses, hein, relativement nombreuses, qui sont dynamiques, qui par contre sont des peut-être plus petites associations que dans d'autres territoires. Donc une majorité de petites associations et une majorité d'associations aussi qui ne sont pas fédérées à des grands mouvements. Donc voilà. Et puis après, dans les particularités, on a beaucoup plus d'associations culturelles et d'associations sportives en moyenne que les moyennes qu'on peut retrouver sur notamment le territoire national ou sur le territoire régional.
Ok, donc la Mayenne est un territoire culturel et sportif, en tout
pas
cas. Dans...
Non, mais on a une grosse, voilà, une grosse,
une certaine présence, voilà,
une certaine... grosse dynamique de ces associations.
Et justement, pour ces associations mayennaises, l'un des dispositifs que vous portez au sein de la préfecture de soutien financier par le biais d'attribution de subventions publiques s'appelle le FDVA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Oui, c'est un de nos dispositifs de soutien historique aux associations. Donc, le FDVA, c'est le Fonds de développement de la vie associative. Donc, c'est un fonds qui comporte plusieurs enveloppes. Une première qui nous permet en fait d'accompagner des associations dans la mise en œuvre de formations pour les bénévoles. Donc en gros, une association vient nous voir en nous disant bah voilà, j'ai tel ou tel besoin de formation ou j'ai repéré tel ou tel besoin auprès des bénévoles de mon territoire et on souhaiterait pouvoir être aidé pour organiser une formation sur cette thématique. Donc le FDVA peut y participer. Puis on a un deuxième volet là qui est plus récent, qui date de 2018, qui prend la suite des réserves parlementaires. Et donc l'objet de cette deuxième enveloppe, c'est de soutenir notamment petites associations qui sont peu ou pas professionnalisées, qui ont pourtant un rôle essentiel dans l'animation de la vie locale, dans la participation aussi des citoyens via le bénévolat à l'action sur leur territoire. Et donc ce fonds permet de soutenir les associations, notamment dans leur fonctionnement. Donc là, je sors hier d'une commission consultative qui nous permet de lancer la déclinaison de ce fonds en Mayenne. Et donc les appels à projets seront lancés, que ce soit pour la formation ou pour le soutien au fonctionnement associatif, à partir du 18 janvier.
Voilà qui est à noter dans les agendas. En plus de ces fonctions de conseil et de financement, il y a aussi un peu une volonté de structurer le réseau sur le département ?
Alors, sur la mission de soutien à la vie associative, c'est un petit peu ça. C'est à la fois d'accompagner des associations dans leur projet propre, mais aussi de faciliter des coopérations interassociatives pour le bien commun. Et donc, ce qu'on essaie de faire là sur la Mayenne, c'est de mettre en réseau en fait des associations qui ont des compétences en matière de conseil aux bénévoles, de façon à ce que tout bénévole qui a une interrogation, qui a une difficulté dans la gestion de son association puisse être aidé gratuitement, rapidement, gratuitement et puis avec des conseils de qualité grâce à ce réseau.
La préfecture, un acteur donc important de la structuration du secteur associatif en Mayenne. Nous allons poursuivre avec l'exemple d'une collectivité territoriale. Et là, je me retourne vers vous, Monsieur Roland Bouvet. En quoi c'est important pour une ville comme Laval de lier des liens, en tout cas d'avoir un service partenariat avec les associations de son territoire?
Écoutez, comme vient de le dire Julien Ouvrard, la Mayenne est un département qui est riche donc de son tissu associatif, des associations qui offrent une multitude d'activités et de services à nos concitoyens. Et la relation avec la collectivité, je dirais, elle est très simple. Mmh. C'est sans les associations, la collectivité ne pourrait pas offrir autant d'activités, autant de services, autant de loisirs aux concitoyens, aux gens qui habitent sur un territoire. Hein. C'est vraiment pour nous l'association, c'est ce qui accompagne et qui complète les politiques publiques.
Alors du coup, sur une ville comme Laval, qu'est-ce qui est proposé ?
Alors,
qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui a
disparu ? Il y a eu la création du service partenariat associatif en 2009, donc c'est assez récent. Mmh. Le service partenariat associatif a été créé pour pouvoir effectivement répondre, je dirais, aux fortes demandes des associations, puisque avant, il fallait aller dans plusieurs services pour, en fonction si j'étais une association sportive, une association culturelle. Le service, quand il a été créé, il était surtout, enfin, spécialement dédié à la vie associative et avec un objectif simple, c'était faciliter la vie des associations. Hein? Donc, plutôt que de faire des démarches dans plusieurs endroits, la création du service partenariat associatif, c'était l'idée de pouvoir effectuer, je dirais, toutes ces formalités en un seul lieu. En quelque sorte, un guichet unique pour simplifier les procédures et éviter les déplacements inutiles. Voilà, l'idée du partenariat associatif. D'accord. Qu'a créé la ville de Laval. Nos missions principales, c'est d'informer, d'être à l'écoute, d'accompagner les associations lavalloises. On est un centre de ressources avec des conseils, avec des accompagnements dans la mise en place de manifestations. Et surtout, on gère donc pour la ville de Laval les demandes de subventions, les demandes de locaux, les demandes de matériel, tous les moyens de mise à disposition. Voilà, beaucoup d'associations par l'imprimerie municipale pour leur support donc leur support de communication pour les manifestations et les activités. Donc voilà, hein, c'est vraiment le partenariat associatif, bien évidemment à l'écoute des associations, mais aussi à l'écoute de tous les Lavallois, puisque quand vous voulez créer une association, vous voulez avoir un renseignement sur une association, eh bien vous adressez au service partenariat associatif et nous sommes en mesure donc de répondre donc à la population et aux citoyens.
Combien d'associations, du coup, sur le territoire lavallois, avec peut-être la spécificité du fait de la ville-centre, et donc forcément des associations peut-être à vocation un peu plus départementale ?
Oui, tout à fait. Nous utilisons un logiciel où nous avons aujourd'hui à peu près 1200 associations de répertoriées, donc pour la ville de Laval, et bien évidemment un peu aussi le territoire de Laval agglomération. Mais effectivement, comme tu le précisais, Anthony, il y a beaucoup d'associations et ça c'est dû à la taille du département et au fait effectivement que Laval soit la préfecture centre et qui regroupe beaucoup d'équipements. Nous avons beaucoup d'associations qui, dans leur dénomination, s'appellent 53. France Bénévolat 53, France Alzheimer 53, enfin bon. Donc nous travaillons, nous, à la ville de Laval, avec environ ce qu'on va appeler des associations vivantes. Pour moi, une association vivante, c'est une association avec laquelle la collectivité a au moins eu un contact dans l'année, que ce soit pour une subvention, que ce soit pour une demande d'aide, que ce soit pour du matériel. Et nous travaillons à peu près avec 800 associations sur le territoire de la ville de Laval, ce qui n'est pas rien. Et alors des associations vraiment, je dirais, dans de très 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 nombreux domaines, du sport, de la solidarité, de la santé, de la culture, de l'environnement, la jeunesse, l'éducation, les relations internationales, et je m'excuse pour tous ceux que j'oublie, mais c'est vrai que le tissu associatif lavallois est vraiment très dense et offre effectivement énormément d'activités. Donc travailler avec 800 associations, la ville de Laval apporte son soutien au monde associatif par le biais bien évidemment de subventions. Là, la ville de Laval, le conseil municipal de lundi soir 14 décembre de cette semaine a voté donc un budget de 2 480 000 euros pour le monde associatif, ce qui n'est pas rien. Et on peut dire que la ville de Laval, avec tous les avantages en nature, toute la mise à disposition d'équipements, ça représente un budget à peu près de 5 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. On peut peut-être insister sur l'ouverture de la maison des associations, hein, puisque la maison des associations donc est ouverte simplement depuis 2 ans. Là aussi, l'idée était simple, hein, c'était donc de pouvoir avoir un lieu, je dirais, ressource pour les associations, d'avoir une réelle plus-value, hein, et puis d'être un peu, je dirais, un pôle fédérateur pour favoriser les, à la fois les échanges d'expériences entre les bénévoles, la rencontre entre les Lavallois et les acteurs de la vie locale. Enfin voilà, c'était d'avoir un lieu ressource. Le partenariat associatif existait, était un service ressource, d'avoir un lieu, quelque chose vraiment de qui se voit et qui est ciblé, c'était encore un plus pour le monde associatif local, je dirais.
Pour terminer, donc dans cette période un peu délicate qui est 2020, est-ce qu'il existe des dispositifs ou des accompagnements un peu spécifiques au niveau de la préfecture ?
En termes de dispositifs d'aide aux associations, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais pas forcément rentrer sur un catalogue de ces dispositifs, parce qu'on va avoir des dispositifs de soutien à des associations qui sont aussi des dispositifs de soutien aux entreprises, donc plutôt sur la dimension économique du fait associatif. On va avoir des dispositifs qui vont plus être sectoriels pour là on a un appel à projet pour les associations qui sont plutôt dans la lutte contre la pauvreté. On va avoir des appels à projet ou des dispositifs dans le cadre du plan de relance plutôt pour les associations sportives ou pour les associations culturelles. On a des dispositifs de soutien aussi au développement de l'emploi associatif via les fonds JEP jeunes qui vont permettre à partir de 2021 d'aider des associations qui souhaitent embaucher des jeunes de cofinancer finalement le coût du poste pendant 3 ans. Donc il y a vraiment un panel de mesures qui sont portées par l'État, mais aussi des mesures qui peuvent être portées par d'autres collectivités, type la région, etc. Et le rôle qu'on peut avoir au niveau de l'État, ça va plutôt être d'avoir une bonne connaissance de ces différents dispositifs pour pouvoir renseigner les bénévoles et les associations par rapport à telle ou telle spécificité de ce dispositif, de façon à pouvoir trouver des solutions un petit peu clés en main par rapport à des situations associatives qui sont à chaque fois particulières en fait. Donc c'est vraiment d'essayer d'avoir cette réponse personnalisée entre guillemets pour trouver des solutions au cas par cas.
Donc n'hésitez pas à contacter la préfecture pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter ?
Oui, je dirais que comme le monde associatif est dense, nous, dans notre travail de tous les jours et d'aide donc aux associations, je travaille régulièrement avec Julien, je travaille régulièrement donc avec l'État, avec la préfecture, parce que je pense que quand le monde associatif, quand le tissu associatif est aussi dense, on se doit sur un même territoire bien de travailler ensemble, toujours au service des associations.
Eh ben moi je peux que rejoindre Roland dans son intervention, et puis je vais aussi faire une petite une petite anecdote par rapport à l'autre radio. Moi je suis arrivé sur le département il y a 6 ans une des belles surprises quand j'ai commencé à faire un petit état des lieux du monde associatif dans le département, c'était de voir que en Mayenne on avait une radio associative de qualité qui fonctionnait bien, qui permettait aussi de relayer l'action de nombreuses associations dans le département. Donc c'est une belle opportunité aussi et une belle structure que cette association. Donc merci pour l'invitation et en effet je pense que ces formes de coopération sont vraiment essentielles pour essayer de travailler en bonne intelligence et de façon qualitative dans le département.
Et radio associative qui est soutenue par la ville de Laval via une subvention et la mise à disposition de locaux.
Soutenu aussi par l'État. Donc.
Et l'autre radio vous en remercie. Merci d'ailleurs aussi à vous d'avoir accepté cette invitation. Et on continue ce tour d'horizon des acteurs de la vie associative avec demain les centres de ressources et d'informations pour les bénévoles. Au revoir.
Merci, au revoir.
Eh bien, tout est dit, je crois. Merci, Anthony.
Exactement, et on se retrouve demain avec le CEAS et le GDOS. Donc, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière ces acronymes, à demain.
Ah bah dis donc, quel teasing en tout cas, donc vous l'entendrez en tout cas l'interview vers 12h25 dans l'émission demain, toujours sur cette semaine spéciale association. Et puis on revient d'ici quelques minutes, juste après Angèle avec Balance ton quoi.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Aller te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Aller te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Sur l'autre radio, dans votre émission L'Agité du local. Dernière ligne droite, vous le savez, pour faire vos cadeaux de Noël. Et oui, plus que 3 petits jours. Mais un petit coup de pouce, une nouvelle idée pour peut-être votre petit-neveu, votre cousin ou un fils de vos amis, on ne sait jamais. La recommandation en littérature jeunesse de Fanny chez Emily Ranjou.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un album très frais, La grosse gratouille de Victoria Cassanel aux éditions Didier Jeunesse. Un album pour les enfants à partir de 3 ans, vous allez comprendre, c'est très sympa. Un ours a souvent le dos qui lui gratte et il a une solution formidable pour ça, c'est qu'il a son arbre à gratouille. C'est très efficace, il se met le dos contre le tronc et il s'agite et voilà, il est soulagé et c'est tellement efficace que tous les autres ours en profitent. C'est vraiment un arbre très précieux, l'arbre à gratouille. Sauf que, un jour qu'il est en train de se gratter, un petit castor arrive par derrière et il coupe l'arbre pour en faire donc son fameux barrage. À catastrophe, parce que quand même cet arbre à gratouille était essentiel et là c'est la fin du monde pour notre ami l'ours. Le petit castor qui est ma foi très sympathique, il est un peu désolé parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il a fait une grosse bêtise et du coup il va prendre l'ours par la main et ensemble ils vont aller chercher un autre arbre à gratouille parce qu'il veut quand même essayer de réparer sa grosse bêtise. Alors ils cherchent un tas de trucs, ils essaient à droite, à gauche, mais ça va jamais, hein. C'est jamais aussi bien que le premier arbre à gratouille. Jusqu'à ce que, parce que pendant tout ce temps-là, bah, ils sympathisent quand même tous les deux. Et à un moment donné, ils sont tous les deux assis en train de réfléchir et le castor commence à gratter le dos de l'ours. Et en fait, il trouve que c'est génial. Donc voilà, c'est le chemin de l'amitié qui aboutit à cet instant où le petit castor va gratter son copain ours et puis ça va le rendre très heureux. Et du coup, l'ours va aller aider son nouvel ami castor à construire son barrage et l'amitié continue. Et voilà, c'est une histoire toute simple hein, sur l'amitié, sur l'affection, sur l'entraide. Et voilà, un livre, un album pour faire du bien à partir de 3 ans, La Grosse Gratouille de Victoria Cassanel aux éditions Didier Jeunesse.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Montier, et sur l'autre radio.
Et toutes les chroniques, comme d'habitude, sont à retrouver sur notre site l'autreradio.fr. Le feuilleton, cette semaine, nous embarque dans les coulisses de Réauté à Château-Gontier et Saint-Fort. À quelques jours de Noël, c'est le moment de découvrir l'histoire et la fabrication des chocolats et biscuits dans l'entreprise créée à Château-Gontier il y a plus de 60 ans. On jette un petit coup d'œil dans le rétro avec Violette Huolmé. Elle s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables de magasins.
L'entreprise existe depuis 1954, donc à la tête avec nos fondateurs Roland et Madeleine Réauté, donc qui étaient boulangers-pâtissiers dans le centre-ville. Donc la boulangerie est toujours en activité, mais on n'est plus les propriétaires. Après, les enfants ont repris l'activité en 1989 en travaillant avec des grandes épiceries fines, Ediard, Maxime, Fauchon, La Tour d'Argent. Et on a travaillé environ pendant une dizaine d'années. Et là, on s'est dit, ça serait bien d'avoir notre première boutique. Donc on s'est installé ici en 1998. C'est la première boutique. Donc elle s'est agrandie au fur et à mesure des années. Parce que les clients venaient, et ça a été des moments magiques. Il a fallu s'adapter également. Et maintenant, qu'on a toujours proposé des visites à nos clients pour connaître toujours notre savoir-faire, et on propose toujours nos visites. On crée également même des ateliers sucettes, moulage, écriture, afin qu'ils prennent conscience que le chocolat, on peut en déguster tous les jours. C'est un chocolat 100% beurre de cacao, sans huile de palme. Et puis on est fiers de nos chocolats. À ce jour, nous avons 59 boutiques. Donc effectivement, le procédé de fabrication, lorsque vous avez une boutique et 59, n'est pas du tout la même. Donc la fabrication a évolué. Nous avons un deuxième site de fabrication. La preuve, tout à l'heure, je vous parlais du chocolat lorsqu'on le reçoit. Ici, on le reçoit toujours en tablette de 5 kg, mais sur l'autre site, on le reçoit liquide. Donc forcément, c'est complètement différent. Également, nous avons commencé à 8 employés. Là, on arrive à 300 à travailler sous l'enseigne Réauté Chocolat. Donc j'englobe les bureaux, j'englobe la production et les magasins. Le croquant à l'anis existe, comment dire, depuis 1892, qui a été mis en place par les sœurs hospitalières de Château-Gontier au couvent des Ursulines. Et M. Réauté l'a racheté en 1975. Donc ce fameux biscuit, oui, date, hein. Ce fameux biscuit finalement qui ressemble, comment dire, beaucoup à un hostie avec la saveur anis parce que l'anis a des vertus digestives. Et ça a été un petit peu le début avec nos grandes épiceries fines quand les enfants ont été démarchés, Ediard, Maxime, Fauchon. Donc ce biscuit, il l'avait décliné en différents parfums et ça a été le début. Et après, on a enchaîné sur quelques chocolats et après, on a mis en place des galettes angevines. Après, nous avons mis en place les meringues et on a accentué à chaque fois. Donc ça permet, comment dire, sur le site de Saint-Fort, d'avoir cet aspect biscuiterie et chocolat.
Et demain, nous verrons comment Réauté se prépare pour cette période de Noël si particulière pour les biscuits, mais bien sûr, surtout pour les chocolats.
30 minutes tous les jours.
Oui, tous les jours, c'est 30 ça. Minutes.
Du lundi au vendredi sur l'autre radio.
C'est l'heure de découvrir notre nouvelle chronique quotidienne proposée par Soizic, qui participait déjà à l'émission une fois tous les 15 jours avec un autre écho de l'écho, 5 minutes autour d'un sujet d'actualité qui touche à l'économie et ou à la sociologie. Et cette fois-ci, on retrouve Soizic sous un format un peu plus court et un peu plus léger, vous allez l'entendre, c'est parti. Alors bonjour Soizic, on est là pour justement une toute nouvelle chronique sur l'histoire des objets au quotidien et ça commence aujourd'hui avec le coquillage.
Et oui, bonjour Marie. Déjà, c'est formidable de vous retrouver chaque jour et surtout pour vous livrer une petite histoire du monde et de la mondialisation grâce aux objets. On reste dans l'économie malgré tout, évidemment. Alors, on va commencer notre tour d'horizon par le coquillage. Parce que le coquillage n'est pas simplement la dépouille d'un crustacé échoué sur une plage, mais il nous dit au contraire bien des choses sur la mondialisation. Mais commençons par le début. 17e siècle, la Compagnie des Indes hollandaise ne cesse d'importer des coquillages venus des colonies lointaines pour alimenter la curiosité des savants hollandais. Dans toute l'Europe, la science des coquilles est devenue une mode. Le coquillage devient l'emblème de la civilisation rococo au niveau de l'art, des sciences et même au niveau économique. En effet, les kauris, ces petits coquillages originaires de l'océan Indien, ont longtemps été la monnaie d'échange au trafic négrier. C'est ainsi qu'au milieu du XVIIe siècle, le prix moyen d'un esclave atteignait 40 000 kauris. 19e siècle, le coquillage continue d'alimenter la fascination pour les voyages. Dans son roman d'aventure « Deux milieux sous les mers », Jules Verne baptise le sous-marin « Nautilus ». Nautilus de Nautile, un mollusque dont la coquille en spirale était inlassablement copiée par les artisans verriers. Le coquillage devient alors le signe d'une réussite sociale en s'affichant dans les appartements de la bourgeoisie. Non seulement il continue d'incarner les riches promesses des colonies et la soif des empires, mais il devient également le souvenir d'un tourisme de bord de mer naissant, de Pornichet qu'on connaît bien, à Bali, un peu plus lointain. Fin du XIXe siècle, le coquillage, à l'apogée de sa réputation, devient l'emblème visuel d'un nouvel empire, celui du pétrole. En effet, 1904, le pétrolier Shell, descendant d'un commerce mondialisé fondé sur l'importation d'antiquités, de coquillages et de pierres semi-précieuses venues d'Asie, transforme son logo de moule en coquille Saint-Jacques, plus majestueuse et qui incarne encore aujourd'hui la puissance de la firme dans le monde entier. Symbole des rivages lointains, trophée précieux rapporté de l'Empire et des colonies, et finalement marque d'une entreprise cotée en bourse, le coquillage raconte ainsi l'émerveillement devant la nature du monde et en même temps le désir humain, toujours réaffirmé, de le maîtriser et de le conquérir.
Merci beaucoup Soizic. Toutes ces chroniques seront donc à retrouver désormais tous les jours en fin d'émission, à ne pas manquer, vous l'avez compris. Et on termine comme d'habitude avec notre rubrique initiative. Offrir des cadeaux de Noël venus des quatre coins du monde, c'est possible sans bouger de chez soi grâce au marché du Bourgny à Laval. Ce mercredi seront présentes les associations de jumelage Abo Imad, Laval Lovetch et Laval Grèce. Alors désolé pour ma prononciation, elle doit pas être très, très excellente, mais on fait avec. Donc c'est mercredi de 16h à 19h, place de la commune à Laval, seront présentes ces associations. L'occasion de faire le plein de cadeaux venus d'ailleurs, promettent les organisateurs, comme par exemple la célèbre vanille de Madagascar, des miels et huiles d'olive grecques, ou bien encore de l'artisanat en céramique et des produits de beauté, spécialité bulgare. Dernier jour pour participer au Secret Santa à Laval. Secret Santa, évidemment, pour Père Noël secret en anglais, initiative de Charline Galpin du restaurant Chaque Cuisine à Laval. Le principe, avant ce jeudi, vous déposez un cadeau d'un budget de 15 euros maximum chez Chaque Cuisine, puis tous les cadeaux seront distribués de façon aléatoire aux participants et vous recevrez bien sûr le vôtre. Il suffit de s'inscrire par mail à charline.galpin@gmail.com ou par SMS au 06 11 80 84 34. Et puis un marché de Noël, alors pas vraiment un marché de Noël puisque vous le savez, les marchés de Noël sont interdits, mais en tout cas un marché de producteurs ouvert toute la journée jusqu'au 31 décembre. Ça se passe au manoir de Rouessé à Laval, justement pour faire face aux annulations des marchés de Noël. Une épicerie éphémère est donc ouverte jusqu'au 31 décembre, tous les jours de 10h à 20h et les dimanches de 14h à 19h. Vous retrouvez 20 producteurs sur place avec du foie gras, des huîtres, de la bière, des volailles, des biscuits, enfin tout pour votre repas de Noël et votre réveillon du Nouvel An. Ce sera rue Allende à Laval, donc pour le manoir de Rouessé. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local, à suivre sur notre antenne à 19h Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Morgane. Et nous, on se retrouve demain à 12h15. Très bon après-midi à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du Local.